France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'émotion de toute une ville, cette marche blanche à Grande-Synthe. Plus de 1500 personnes présentes après la mort de Philippe, 22 ans, sauvagement passé à tabac sur un parking de supermarché. Deux mineurs doivent être présentés à un juge aujourd'hui. L'inflation cachée va bientôt s'afficher au supermarché. Bonjour Mariam El Kurdi.
Bonjour.
C'est ce qu'on appelle la shrinkflation et à partir du 1er juillet, il y aura des affichettes en rayon.
Oui, pour indiquer que tel paquet de fromage ou telle boîte de gâteau a baissé de tant de grammes, mais que son prix a augmenté de tant de pourcents. Le gouvernement veut briser l'opacité vis-à-vis des consommateurs.
Ben voilà, vous allez nous en dire plus tout à l'heure. D'où venait l'attaque de drones ce matin sur l'Iran? Était-ce la riposte militaire d'Israël? L'État hébreu reste silencieux et Téhéran minimise. Nous serons en Inde, élection générale. L'opposition au nationaliste Narendra Modi a eu bien du mal à se faire entendre pendant la campagne. Faudra-t-il fermer le temps de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Les bars et les restaurants qui se trouvent sur le trajet s'inquiètent parce que c'est possible.
Quand on pense que c'est la grande fête, bah, c'est plutôt la catastrophe. Bah, de toute façon, nous, on est un peu résignés. Hein. Vous savez, on a eu le Covid, on a Notre-Dame.
Il réclame déjà des indemnisations, vous l'entendrez. On parle des bons chiffres de Netflix grâce à sa chasse au partage de comptes également. À 13h30, nous serons avec la réalisatrice de la série documentaire L'affaire Flactif, une jalousie meurtrière sur la tuerie du Grand Bornand, parce qu'il reste encore des mystères sur cette affaire qui a défrayé la chronique. Il y a plus de 20 ans, vous nous appelez 01 45 24 7000. 13h50, on parle de sport, c'est le journal L'Équipe aujourd'hui, et puis juste avant 14h, c'est une chanson Alison Paradis aujourd'hui, demande Gaël Faye à Frédéric Pommier. Vous avez le programme, merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Il y a eu la peur et la rumeur à Grande-Synthe. Un maire, on l'entendait ici même hier midi, appelant la population à ne pas céder à l'esprit de vengeance après le drame de lundi soir. Philippe, 22 ans, laissé pour mort sur un parking de supermarché. Deux adolescents de 14 et 15 ans devraient être présentés à un juge. Aujourd'hui, bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
On va faire le point sur l'enquête avec vous dans un instant. Mais d'abord, l'émotion de toute la ville de Grande-Synthe. Ce matin. Bonjour Gabin Grulé.
Bonjour.
Vous êtes en direct de la ville où plus d'un millier de personnes se sont rassemblées tout à l'heure.
Oui, tous habillés en blanc, c'était la consigne de la famille. Certains tiennent une rose blanche à la main. Le cortège s'élance doucement du lycée où a étudié Philippe. Beaucoup d'élèves sortent rendre hommage au jeune homme comme Fatima.
Il apportait la joie et la bonne humeur. Et par exemple, quand il voyait des petits jouer au foot, il allait jouer avec eux. Il rigolait beaucoup. Il aidait beaucoup aussi les gens ici. Ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. C'est pour ça que c'est dur de savoir qu'il a été frappé et tout, alors qu'il ne méritait pas ça. Personne ne mérite ça.
En tête de cortège, sa famille tient une banderole avec des photos du jeune homme. Il s'arrête sur le parking où a été retrouvé le corps. Ses deux frères déposent une fleur. Des jeunes me disent « on est traumatisés, on ne s'en remettra jamais ». Certains ont vu les photos de l'agression. Laurence, mère de famille, est-elle venue soutenir la maman du jeune homme?
Et elle venait de perdre son mari, elle avait déjà beaucoup de chagrin, maintenant son enfant. Et dans les circonstances comme il a été, franchement c'est une honte. Jamais de notre vie on peut voir des choses comme ça, c'est pas possible, c'est incompréhensible. C'est de la barbarie, c'est, ouais. Je sais pas moi. On s'acharne pas comme ça sur un enfant.
Le maire de Grande-Synthe, Martial Beyert, dénonce cette violence à la fin de la marche. Ça ne doit plus jamais arriver avant de respecter une minute de silence en mémoire de Philippe.
Gabin Grulet en direct de Grande-Synthe dans le Nord avec Geoffrey Maériane. Et je me tourne donc vers vous, Emmanuel Leclerc. Deux mineurs de 14 et 15 ans ont été arrêtés peu de temps après les faits. Leur garde à vue se termine. Ils devraient être présentés à un juge dans le courant de la journée. Et les enquêteurs en cherchent un troisième. Ils penchent pour l'hypothèse d'un guet-apens.
C'est en tout cas le scénario tragique qui se dessine parce qu'effectivement deux suspects ont été très rapidement interpellés à leur domicile et que l'un d'eux a reconnu avoir porté des coups la victime, un adolescent de 14 ans seulement, vous l'avez dit, avec un profil malheureusement très inquiétant, confie une source proche du dossier, connu pour des faits de violence, une enfance avec un père lui-même connu pour de l'ultra-violence. Les enquêteurs ont pu en tout cas saisir les téléphones des deux adolescents et c'est bien comme cela qu'ils se seraient vite rendu compte que l'on était dans un scénario de guet-apens en voyant que les suspects avaient créé un faux compte sur un site de rencontre. Les investigations ont permis, selon nos informations, d'écarter l'hypothèse d'un crime homophobe. L'idée aurait été d'attirer leurs victimes avec un faux profil de jeune femme, ce que la procureure de Dunkerque devrait confirmer en fin d'après-midi lors d'une conférence de presse. Un ancien enquêteur qui a eu par le passé à traiter ce genre d'affaires de justicier pensant traquer des pédophiles, eh bien n'avait pas souvenir que cela ait été jusqu'à tuer la victime et surtout pas venant de mineurs de 14 et 15 ans.
Emmanuel Leclerc, face à la violence des mineurs, le Premier ministre a dit hier vouloir un débat sur une atténuation de l'excuse de minorité qui allège les peines. Il y a nécessité de restaurer cette autorité, disait ce matin le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sur France Inter, tout en constatant que le nombre d'affrontements entre bandes, même s'ils sont plus jeunes, sont assez stables dans l'agglomération parisienne. En Alsace, c'est un homme de 30 ans qui s'en est pris à deux fillettes près de leur école hier, à Souffelver Saïm avec un couteau. Elles ne sont heureusement que légèrement blessées. L'assaillant a été interpellé. Mais quand l'établissement s'est barricadé, c'est la procédure en cas d'alerte intrusion. Une collégienne a fait un arrêt cardiaque et elle n'a pas survécu. Ça a été très dur pour les élèves ce matin. Antoine Ballandra, France Bleu Alsace.
Il est 8h20 quand Vanessa dépose ses trois enfants à l'école.
Ils ont beaucoup parlé hier soir, ce matin en se réveillant. Ils ont quand même passé une bonne nuit, un petit peu agité. Mais tout va bien.
La jeune maman a quand même hésité à venir ce vendredi matin.
J'ai quand même hésité, mais bon, il n'y a pas le choix de reprendre l'école. Mais je ne voulais pas rester, je voulais pas que les enfants restent sur une mauvaise note et partir en vacances comme ça. Je voulais qu'ils reprennent le cours de leur vie et puis qu'ils passent à autre chose pour qu'ils puissent entamer les vacances correctement.
Un dernier câlin, une dernière embrassade et les enfants de Vanessa s'engouffrent dans la cour. Devant le portail, Cara, une autre maman, embrasse sa fille.
On n'a pas sombré dans la peur, voilà, on va continuer notre petite vie. Il faut expliquer aux enfants que ce sont des choses qui arrivent malheureusement, très rarement, mais voilà, il faut aller de l'avant.
À la maison ce jeudi, cette maman a donc passé beaucoup de temps à revenir sur la journée difficile de l'attaque au couteau avec sa fille de 9 ans, Maya.
Elle a aussi dit que c'était bien qu'on se soutienne, que c'est bien qu'on soit là pour les uns vers les autres et qu'il faut respirer aussi quand on a peur et qu'il ne faut pas se laisser envahir par le stress.
Et pour tenter d'évacuer les traumatismes, une cellule de soutien psychologique a été installée dans l'école.
Le reportage est signé Antoine Ballandra de France Bleu Alsace.
France Inter, le 13-14. Hélène Philly.
On est loin de la désescalade au Moyen-Orient. Les frappes de ce matin en Iran étaient-elles la riposte d'Israël à l'attaque du week-end dernier? C'est encore difficile à dire. L'État hébreu ne communique pas. Nous serons avec notre correspondant dans la région dans un instant. Mais déjà, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, réitère un appel à la retenue.
We have to do.
On doit faire tout ce qui est possible pour éviter une escalade entre toutes les parties dans la région. Nous avons assisté à cette attaque massive avec environ 300 drones et missiles lancés par l'Iran contre Israël. Il est absolument nécessaire que la région reste stable et que toutes les parties s'abstiennent de toute nouvelle action.
Ursula von der Leyen en marge d'un déplacement en Finlande avec Angélique Bouin. Revenons donc sur ce qui s'est passé ce matin, ce que l'on sait avec certitude, parce que les informations viennent essentiellement de médias américains. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Hélène, bonjour
à tous. L'Iran affirme qu'il n'y a pas eu d'attaque de l'étranger, mais il y a tout de même eu trois fortes explosions aux alentours de 4 heures ce matin dans le centre du pays.
Des explosions dans le ciel d'Ispahan, la grande ville du centre de l'Iran, filmée par des habitants et relayée par la télévision nationale. Selon des sources israéliennes citées par des médias américains, l'État hébreu est à l'origine de ces frappes qui n'auraient pas reçu l'aval des États-Unis. La cible, toujours selon les mêmes sources, une base militaire d'où seraient partis des drones et des missiles dans la nuit de samedi à dimanche dernier en direction du territoire israélien. Impossible pour le moment d'en décrire l'ampleur, ni l'impact sur les capacités opérationnelles iraniennes. D'autant plus que ce matin, lors d'un discours officiel, le président iranien s'est gardé d'évoquer les événements de la nuit.
Côté israélien, en tout cas, on n'assume pas cette attaque. Il n'y a aucune communication, Thibault.
Silence radio, aucune déclaration au plus haut niveau en tout cas. Israël ne revendique donc rien dans la lignée des dizaines d'opérations d'assassinats de scientifiques iraniens ou de cyberattaques depuis des années. L'État hébreu laisse ainsi la porte ouverte au déni et à l'ambiguïté stratégique et permet à l'Iran de ne pas appeler à une nouvelle riposte si bien entendu Téhéran veut calmer le jeu. C'est donc une réponse mesurée et un double message envoyé d'abord à l'ennemi. Israël peut frapper vite et fort le territoire iranien et sans préavis, mais aussi à destination de l'opinion publique. Depuis le 7 octobre, les Israéliens ont perdu confiance dans la capacité de l'État à assurer leur sécurité. En répliquant, Israël continue sa stratégie dissuasive, œil pour œil, dent pour dent, sans pour autant plonger dans un conflit dont l'issue serait incertaine.
Voilà, l'Iran dit donc qu'il n'y a pas eu d'attaque de l'étranger. Plusieurs responsables iraniens cités par le New York Times évoquent une attaque menée par de petits drones, possiblement lancés depuis le territoire iranien. Attaque depuis l'intérieur des frontières, c'est en effet l'une des hypothèses privilégiées par le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
C'est très intéressant parce que cette information, elle a été surtout fournie par les Iraniens. Or, ça a deux conséquences. La première, c'est que ça montre la vulnérabilité du dispositif sur le territoire iranien qui peut se permettre d'avoir des agents infiltrés maniant des drones à l'intérieur de l'Iran et singulièrement dans la région d'Ispahan où est le site nucléaire majeur iranien. La deuxième, c'est que ça permet en revanche aux Iraniens de dire « on n'a pas eu d'attaque de l'extérieur ». Et en plus, il n'y a aucune attaque qui a atteint le sol iranien. Donc, pour se défausser d'une réelle attaque venant de l'extérieur, les Iraniens sont prêts à accepter de montrer qu'ils ont une faiblesse sur leur dispositif intérieur.
Le général Dominique Trinquant avec Gwendal Lavina. La situation au Moyen-Orient éclipse en tout cas celle de l'Ukraine où le harcèlement des frappes russes reste pourtant quotidien. Dans le sud du pays, la nuit dernière, un immeuble d'habitation a été touché. Il y a encore plusieurs victimes, une dizaine de blessés. La ville de Kharkiv est aussi régulièrement visée et rester vivre dans les zones les plus détruites de la deuxième ville du pays relève du défi quotidien, comme à Saltivka, quartier martyr, où est retourné notre envoyé spécial Agathe Mahué.
Il y a un certain décalage entre le petit barbecue que prépare Roller au bord de l'étang et dans son dos, l'immeuble de 8 étages complètement soufflé. Frappé par un missile russe il y a 3 mois, la façade s'est effondrée. On aperçoit au premier les restes d'une cuisine et au deuxième, les livres encore rangés dans la bibliothèque. Roller habite juste en face. Il a 21 ans et l'air infiniment triste.
J'ai vécu dans ce quartier toute ma vie. Et maintenant que tout ça a disparu, ça me donne le sentiment d'un grand vide. Certains de mes amis sont au front, d'autres sont partis vivre ailleurs, et d'autres encore sont morts.
Ce soir, Oler réunit ceux qui restent, une petite fête, sans trop y croire.
Toutes les nuits, ici, on te rappelle que l'agresseur est à 30 km de chez toi et qu'il veut te tuer. Tu essaies de t'en défaire, mais tu n'y arrives pas.
Saltivka est le quartier résidentiel de Kharkiv le plus proche de la Russie. Alina et Volodymyr ont acheté au 16e et dernier étage, dans un autre immeuble. Leur petit garçon, Vitaly, n'a pas encore 3 ans.
Il n'y a pas d'électricité, donc pas d'ascenseur. Le petit grimpe l'escalier tout seul, jusqu'au 10e étage.
Être responsable d'un enfant dans ces conditions, c'est ça le plus dur, ajoutent les deux parents. Mais Alina ne veut pas se soumettre.
On a déjà enduré assez de choses comme ça ici pour renoncer à nos envies.
Et si un deuxième enfant arrive, c'est comme ça, sourit Alina.
Et peut-être un troisième enfant et un autre appartement.
Voilà un reportage en Ukraine d'Agathe Mahué avec Jérémy Tuil et Yachar Fazilov. Aux États-Unis, le laborieux processus de sélection des jurés arrive à son terme au premier procès pénal de Donald Trump, l'ancien président. Les 12 sont désormais choisis, ne reste qu'à se mettre d'accord sur les suppléants. Ça aura duré une semaine entière. Et l'actualité à l'étranger nous emmène aussi en Inde aujourd'hui parce qu'on y vote des élections générales qui vont s'étaler sur 6 semaines. Près d'un milliard d'électeurs, 1 million de bureaux de vote. L'actuel Premier ministre Narendra Modi est donné largement favori face au principal parti d'opposition, le Congrès, qui n'a pas pu mener une campagne digne de ce nom. C'est le reportage de Valérie Crova, notre envoyée spéciale à New Delhi.
entravé, affaibli, mais toujours là. Les dirigeants du Congrès continuent de croire qu'ils peuvent encore inverser la tendance, malgré les obstacles qui se sont accumulés ces derniers mois. Pawan Khera est le porte-parole du parti du Congrès.
Il y a une absence claire et visible de règles du jeu équitables. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que nos comptes ont été gelés. Aujourd'hui encore, une grande partie de notre argent est toujours saisie par le parti au pouvoir. De plus, les médias traditionnels ne nous offrent pas le type de couverture que nous devrions accorder à tous les partis.
Le parti au pouvoir, le BJP, a été accusé d'instrumentaliser la justice pour empêcher les membres de l'opposition de se présenter. Plusieurs sont d'ailleurs actuellement derrière les barreaux.
Dans 95% des cas, les enquêtes des agences telles que le Bureau central des investigations étaient dirigées contre l'opposition. 95%. Elles ne portent aucune plainte contre ceux qui sont de leur côté.
À ceux qui voient en Narendra Modi l'homme providentiel de l'Inde, Pawan Khera rétorque.
Deux jeunes se suicident chaque heure dans ce pays. Deux agriculteurs se suicident chaque heure dans ce pays. Il y a 4 viols par heure dans ce pays. C'est contre cela que nous luttons.
Ces minutes sont comptées. Le porte-parole du Congrès est attendu pour un meeting dans le Kerala, dans le sud de l'Inde.
Valérie Crova, envoyée spéciale de France Inter en Inde avec Fabien Gosset. Le scrutin doit donc durer 6 semaines. Au plus fort de l'inflation dans les supermarchés, ça a été le moyen de contenir les prix parfois dans les rayons. Certains industriels ont diminué la quantité de leurs produits. En gros, le consommateur paye la même chose, voire plus d'ailleurs par moment. Mais il y a moins à manger, ça s'appelle la shrinkflation. Maria Melkurdi, vous êtes de retour avec nous à partir du 1er juillet donc. C'est ce qu'annonce ce matin dans le journal Ouest France la ministre Olivier Grégoire. Il y aura des étiquettes devant les produits. Les hausses de prix cachées.
Oui, sur cette affichette mise en place par les super et hypermarchés sera écrit à côté du produit concerné. La quantité vendue est passée de X à Y et son prix au kilogramme ou litre a augmenté de X% ou de X euros, explique Olivia Grégoire. Exemple donné par le ministère, sans citer la marque, hein, un paquet de couches dont le prix a grimpé de 30% alors qu'il a vu sa quantité passer de 62 à 58, une boîte de glace qui pèse moins lourd et dont le coût augmente de 20%. Cela ne concerne que quelques dizaines de produits, mais c'est, je cite, une façon délibéré de prendre les consommateurs pour des pigeons, s'insurge la ministre déléguée au commerce. Volonté donc de plus de transparence vis-à-vis du consommateur. Foodwatch, qui a mené une campagne contre la shrinkflation, s'en félicite. Audrey Maurice, chargée de campagne pour l'ONG de défense des consommateurs.
C'est une victoire de Foodwatch contre l'opacité des industriels et des distributeurs. Le gouvernement a entendu la mobilisation des consommateurs et consommatrices aux côtés de notre association. Ça prouve qu'on peut faire bouger les lignes politiques pour défendre la transparence dans les rayons alimentaires.
Une bonne décision, salue également 60 millions de consommateurs. Le magazine regrette cependant qu'aucune mention ne soit faite sur une autre pratique plus insidieuse, la cheapflation. Autrement dit, quand un industriel change la recette de son cordon bleu, par exemple, en y mettant moins de poulet et plus de chapelure, parce que ça lui coûte moins cher et tout cela sans baisser le prix.
Merci beaucoup Maria Melkurdi. Lui est prêt à recevoir les acheteurs potentiels, mais il ne veut pas de cette vente. Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, s'affiche énervé ce matin de la perspective de la cession de Biogarant, leader sur le marché du médicament en France. Parmi les 4 candidats à la reprise, 2 sont indiens. Le gouvernement n'écarte pas l'idée de bloquer le projet si la production ne se faisait pas en France. Question de souveraineté d'autant plus importante en période d'élection européenne. Nous sommes à moins de 2 mois du scrutin, le 9 juin prochain. Et la France Insoumise annonce qu'elle compte saisir la commission des comptes de campagne. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Accusant Emmanuel Macron d'avoir profité des moyens de l'Élysée pour faire campagne.
Et en effet, le chef de l'État a franchi la limite, mercredi à Bruxelles. Pour la première fois, il s'affiche avec sa tête de liste, Valérie Ayé, dont il vante les qualités. Vidéo postée en direct sur le compte X de l'Élysée. Mélange des genres, vidéo rapidement supprimée par la présidence. Qui a retenu la leçon ? Conférence de presse hier soir, toujours à Bruxelles, Emmanuel Macron est interrogé sur son rôle dans la campagne et sur l'interdiction de la conférence des Insoumis sur la Palestine.
Est-ce que vous considérez que c'est une situation normale à un mois et demi des élections européennes ?
Sur la première question...
Cette fois, plus de son, plus d'images. On voit à la place pendant 3 minutes le logo de la présidence de la République. Et quand ce matin, il rend une visite surprise à l'équipe de campagne pour assurer qu'il compte bien les aider, l'Élysée se garde bien de communiquer. tout en laissant le parti et les participants s'en charger. Et quand jeudi prochain, il prononcera un grand discours sur l'Europe à la Sorbonne, ce ne sera pas décompté du temps de parole de sa liste, jure son entourage, car ce sera un événement purement institutionnel. Frontière ténue entre le président-président et le président en campagne, zone grise. En 2019, la commission des comptes de campagne avait jugé a posteriori qu'une tribune publiée par Emmanuel Macron dans la presse revêtait bien un caractère électoral.
Emmanuel Macron qui s'est encore rendu ce matin au siège de son parti Renaissance pour saluer l'équipe de la tête de liste aux européennes, Valérie Ayé. Cette alerte de Santé publique France à présent, les cas de coqueluche augmentent en Europe. Elle peut être grave, cette maladie respiratoire chez les jeunes enfants. Sonia Gobry, la vigilance est donc renforcée en France.
Oui, parce qu'une vingtaine de cas groupés, qu'on appelle aussi des clusters, ont été recensés dans 8 régions de l'Hexagone depuis janvier, contre 2 pour l'ensemble de l'année 2023 et uniquement en Île-de-France. Selon Santé publique France, ces clusters se forment principalement dans des lieux collectifs, écoles, haltes, garderies, maisons maternelles. La coqueluche se transmet aussi dans la famille, normal, puisque cette maladie respiratoire fait beaucoup tousser et que la bactérie se transmet par les gouttelettes expulsées. L'agence sanitaire précise que pour l'instant, la situation française n'est pas comparable avec celle de voisins européens qui rapportent plusieurs centaines de cas par semaine depuis plusieurs mois. On peut citer la Croatie, le Danemark, le Royaume-Uni, la République tchèque ou encore les Pays-Bas qui font face à des épidémies importantes avec des cas mortels chez des bébés encore non vaccinés. D'où l'importance de la vaccination, insiste Santé publique France. Depuis 2018, elle est obligatoire pour les nourrissons à partir de 2 mois et il faut prévoir les rappels. La Haute Autorité de Santé recommande aussi vivement aux femmes enceintes de se faire vacciner contre la coqueluche.
Il a eu 3 visages dans sa vie. Jérôme Hamon est mort cette semaine à 49 ans. C'était le premier homme au monde à avoir subi 2 greffes de la face en 2010 et en 2018 réalisées par l'équipe du professeur Laurent Lantieri. Et voici qui promet de gros bouchons. C'est déjà un peu ce qui s'est passé ce matin sur l'A13, l'autoroute qui relie Rouen et Caen à Paris, quand les automobilistes se sont rendus compte qu'elle était fermée au niveau de l'échangeur avec la 86 pour des problèmes détectés entre le viaduc et le tunnel de Saint-Cloud, Philippe Lefebvre.
Cette fermeture a été annoncée hier soir vers 23h et depuis, la direction régionale des routes d'Île-de-France évoque simplement la découverte sur la chaussée de problèmes pouvant avoir des conséquences en matière de sécurité pour les usagers. Pas de précision supplémentaire à ce stade, mais le problème doit être suffisamment sérieux pour que la décision de fermer les accès dans les deux sens de circulation ait été prise si rapidement. Alors du côté des associations d'automobilistes, on évoque de possibles infiltrations d'eau dans les structures du viaduc de Saint-Cloud. Ce pont de plus d'un kilomètre de long mis en service en 1974 et qui relie le boulevard périphérique au tunnel de Saint-Cloud. Un tunnel lui-même très ancien dont la construction remonte à 1930 et qui, en 2022, avait fait l'objet de travaux d'urgence, là encore à cause d'infiltrations d'eau. Et pour le moment, eh bien, on ignore quand la circulation pourra reprendre sur cet axe très fréquenté, notamment en cette période de vacances scolaires.
Dans la fermeture, pour une durée indéterminée, les conseillers de reporter ces déplacements si vous le pouvez. A priori, ils devront rester fermés le 26 juillet. Les bars et les restaurants qui se trouvent sur le trajet de la cérémonie d'ouverture, sur la scène, le temps du spectacle. Je parle évidemment des Jeux Olympiques. Ce sera vraiment décidé au dernier moment, mais ça inquiète déjà beaucoup les commerçants. Bonjour Maxime Glorieux.
Bonjour.
Vous êtes allé les voir ce matin et ils espèrent des indemnisations.
Oui, car cette journée d'ouverture des Jeux, c'était la promesse d'un chiffre d'affaires record.
5 000, 10 000 euros, bon voilà, c'est triste, c'est un drame. Nous, on veut du monde, on veut travailler. Moi, je croyais qu'on aura du monde. J'ai promis avec mon patron, on a commencé même à embaucher des gens. On est à courant de rien du tout.
Au courant de rien, à moins de 100 jours de la cérémonie, qui doit passer devant Esmeralda, près de Notre-Dame, c'est le nom du restaurant de Frédéric.
Quand on pense que c'est la grande fête, bah, c'est plutôt la catastrophe. Bah, de toute façon, nous, on est un peu résignés. Hein. Vous savez, on a eu le Covid, on a Notre-Dame. Mais si les Parisiens se sauvent pendant les Jeux Olympiques et que les touristes, eux, ont du mal à accéder aux îles, bah, ça se demandait s'il y a beaucoup de collègues, visiblement, qui vont fermer pendant la période des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il vaut mieux pas fermer pendant 2 semaines ?
Côté salarié, il y a ceux qui relativisent.
Moi, j'aime bien les JO, donc il faut faire un effort. Tout le monde doit faire un effort.
Et ceux qui craignent de voir perdre une journée de salaire.
Moi, j'ai 4 enfants, je charbonne pour, voilà, avec le coût de la vie maintenant. Voilà. Bon, donc vive les JO.
À ce stade, rien n'est acté, ni la fermeture le jour même, ni l'éventuelle indemnisation, mais la seule certitude, c'est ce QR code obligatoire une semaine avant la cérémonie. Les commerçants sont inquiets de voir des touristes découragés de se promener sur l'île de la Cité.
Merci beaucoup Maxime Glorieux. Il n'y avait pas 15 titres, mais 30 sur l'album dévoilé par Taylor Swift. Ce matin, la mégastar secret et l'attente et la surprise, son 11e album, était en fait un double, le cercle des poètes torturés, si on traduit le titre. À 34 ans, Taylor Swift est devenue au début de l'année la première artiste à devenir milliardaire grâce au seul revenu tiré de sa musique. Et Alexis de Meyer a donc fait son entrée dans ce studio. Bonjour Alexis.
Bonjour Hélène.
Parce que Netflix vient de dévoiler d'excellents résultats, la plateforme affiche un bénéfice net de 2,3 milliards d'euros au premier trimestre. C'est mieux qu'attendu et c'est en grande partie le résultat de sa chasse aux comptes partagés.
Oui, une chasse ouverte il y a un an. Netflix estimait alors que 100 millions d'utilisateurs dans le monde profitaient des mots de passe refourgués sous le manteau. Mais malgré ou grâce à cette nouvelle politique, la firme basée à Los Gatos dans la Silicon Valley revendique donc désormais 270 millions d'abonnés. Elle a même souhaité la bienvenue à 9 millions de petits nouveaux entre janvier et mars, presque le double de ce qui était espéré. Et la nouvelle formule low cost, celle avec publicité, semble trouver son public puisque 40% des nouveaux abonnés la choisissent. Revers de la médaille, les annonceurs font entendre leur voix réclamant toujours plus de contenu porteur. On voit donc fleurir dans nos algorithmes des propositions plus ou moins honnêtes vers de la télé-réalité et du catch en attendant la diffusion en direct cet été d'un combat de boxe entre un youtubeur et Mike Tyson. On s'éloigne donc de l'époque où Netflix nous régalait de séries ambitieuses comme House of Cards, The Crown et Mindhunter, ou de films d'auteurs exclusifs comme Roma, The Irishman et Uncut Gems. Et face à la concurrence des autres plateformes, la croissance de Netflix a peut-être atteint son pic. La direction annonce d'ailleurs qu'elle ne communiquera plus le chiffre des nouveaux abonnés dès l'an prochain, ce qui a moyennement plu aux investisseurs cette nuit à Wall Street.
On peut imaginer, pas d'informations non plus sur d'éventuelles hausses de tarifs dans les mois, les années à venir. Merci beaucoup Alexis de Meyer. Il est 13h26 sur Inter et au sommaire de la prochaine demi-heure, on commencera avec la météo de Sébastien Léas dans une minute. À 13h30, on revient sur l'une des grandes affaires de l'histoire judiciaire, la tuerie du Grand Bornand en 2003. Toute une famille tuée froidement dans son chalet, le coupable qui parade devant les journalistes quelques jours après son crime. Nous sommes avec la réalisatrice d'une série en 4 épisodes à voir en ce moment qui décortique ce crime de haine et de ressentiment. Vous nous appelez au 01 45 24 7000. 13h45, c'est le dernier épisode de notre feuilleton à Nigloland, parc d'attractions de père en fils. C'est la France. Le vendredi, on parle sport. Bonjour Jean-Baptiste René.
Bonjour.
Du journal L'Équipe, vous nous emmenez en Guyane.
Oui, pour découvrir une jeune femme qui a 22 ans, qui court de plus en plus vite et qui forme un duo indissociable avec son entraîneur, malgré les accidents de la vie.
À tout à l'heure. Et puis c'est une chanson. Alison Paradis demande aujourd'hui Gaëlle Faye.
J'aime bien le mot, moi. Chaloupé. Je trouve chouette.
C'est pas exactement danser, chaloupé.
Non, c'est ça, c'est plus voguer, quoi, presque, un peu comme un bateau.
Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle, de continuer à chalouper.
Chalouper, le titre de cette chanson de Gaëlle Faye, choisie par Alison chalouper. Paradis. C'est une chanson avec Frédéric Pommier, c'est juste avant 14h, à tout de suite.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy, l'espoir de guérir le cancer a un nom. Faites un don sur gustaveroussy.fr.
La météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Avec vous Sébastien Léas, bonjour.
Bonjour Hélène Philippe.
Plein soleil sur le sud.
Oui, le ciel est bien dégagé, l'après-midi restera largement ensoleillé des côtes aquitaines et charentaises jusqu'en Auvergne, aux Alpes du Sud et aux régions de la Méditerranée. Entre la Vendée et le Lyonnais, le ciel va devenir plus variable en marge d'une perturbation. Cette perturbation donnera d'ailleurs un temps pluvieux sur le Grand Est cet après-midi. Les nuages de cette perturbation vont aussi envahir une bonne partie nord du pays. Quelques gouttes seront possibles entre la Normandie et le bassin parisien, voire la Bourgogne. La couche nuageuse sera plus morcelée entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Sologne. Et puis sur les Hauts-de-France et les Ardennes, les averses vont se multiplier progressivement. Les températures, elles sont en hausse. La hausse sera surtout marquée sous le soleil d'une large moitié sud. Les maximales retrouvant même des valeurs de saison. Plus au nord, les températures resteront un peu justes. Il fera 10 degrés à Strasbourg et à Metz, 12 degrés à Lille, 14 degrés pour Brest et Paris, 15 degrés à Caen et Dijon. On attend 17 degrés à Lyon, à Limoges, à Tours et à Nantes, 19 degrés pour Marseille et Ajaccio, 20 degrés à Toulouse et à Bordeaux et jusqu'à 22 degrés pour Perpignan.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France, l'invité du 13-14 à suivre.
France Inter, le 13-14. Hélène Philippe.
Est-ce possible de tourner la page 20 ans après le pire ? C'est avec cet espoir que le fils de Graziella Ortolano a accepté de témoigner en longueur dans le documentaire d'Aurore Aubin sur l'affaire dite Flactif. Bonjour Aurore Aubin.
Bonjour.
Une série en 4 épisodes diffusée sur la chaîne Planète Plus Crime. Les deux derniers ce soir est disponible déjà en intégralité sur la plateforme MyCanal. Merci d'être en direct avec nous. L'affaire Flactif. Si ouais. ce nom à sa première évocation ne vous dit rien, vous vous rappelez certainement du décor de ce drame. Un chalet savoyard au Grand Bornand, en Haute-Savoie, un soir d'avril 2003. Toute une famille, le père Xavier Flactif, promoteur immobilier, sa compagne Graziella Ortolano et leurs 3 enfants de 10, 9 et 7 ans sont tués. L'affaire a marqué l'histoire judiciaire. J'en garde, comme beaucoup sans doute, l'image d'une interview à la télévision qui aura son importance dans l'enquête, qui fera basculer le procès aussi. On va y revenir. Pourquoi d'abord, Aurore Aubin, revenir sur cette tuerie sur laquelle on a l'impression d'avoir déjà presque tout entendu ?
Alors déjà, ça fait plus de 20 ans, donc il me semblait important que on puisse en parler de manière moins à chaud, moins passionnée, parce qu'il y a eu beaucoup de reportages qui ont été faits, mais finalement pas de documentaires, uniquement des fictions. Et donc voilà, déjà il y a une question de temporalité qui me semblait intéressante pour aller plus en profondeur et plus en détail sur le déroulé des faits, mais aussi sur la la dérive psychique vertigineuse du meurtrier et de ses co-accusés, enfin et des de ses complices. Je pensais que le temps a passé et que revenir sur cette histoire avec le survivant qu'est Mario, donc déjà comprendre son parcours, la façon dont il avait pu se construire avec cette histoire terrible qui lui est arrivée, me semblait intéressante, d'une part, et aussi me pencher sur beaucoup plus de détails qu'on ne l'avait fait auparavant, et parce que, finalement, il n'y avait pas de documentaire, il y a eu un fait entre l'accusé et d'autres choses comme ça, mais là, on pouvait s'emparer du réel de manière à lui donner plus de profondeur, il me semble.
Et mais c'est vrai que c'est une affaire résolue, Aurore Aubin, c'est pas un cold case. Oui. Qu'est-ce qu'elle a d'emblématique, cette affaire ?
Elle est hors norme, bah déjà parce qu'une famille toute entière qui se fait tuer, c'est pas tous les 4 matins. On l'a cherchée pendant longtemps, donc on pensait qu'elle avait disparu avant d'apprendre qu'elle avait été tuée, puis brûlée. Donc déjà le mode opératoire est quand même assez hors norme. Il y a la mécanique de la rumeur. Je crois que la topographie de ce fait divers est aussi à prendre en compte parce qu'on sait que la montagne c'est aussi c'est un décor aussi enchanteur qu'inquiétant, mais que le village savoyard a aussi fait partie de ce fait divers. Dans le sens où, dans ce village, la rumeur a complètement, abîmé la famille des victimes.
Oui, on va y revenir.
Et a participé, si vous voulez, à l'enquête en elle-même. Parce que les enquêteurs ont dû, à chaque fois, aller vers des fausses pistes qui avaient été véhiculées par ces rumeurs.
Et parce
donc,
que
il y a
vous
la mécanique
disiez...
de la rumeur et l'emballement médiatique également, évidemment, qui était énorme. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent pour les médias. Et que le côté hors énorme, évidemment, de cette histoire a passionné et le public et les médias.
On va y revenir sur cet emballement médiatique qui est bien traité
le
sur les
du
deux
tueur,
premiers épisodes de la série. Vous dites que la rumeur a aussi une place importante parce qu'au départ, il s'agit bien d'une histoire de disparition. Vous avez convaincu le fils de Graziella Ortolano de témoigner dans votre reportage, Mario Leblanc. En 2003, il vit dans le Nord avec son père. Il venait rejoindre sa mère pour les vacances. Elle qui avait refait sa vie en Haute-Savoie avec Xavier Flactif. Et c'est l'adolescente, 14 ans, qui trouve ce jour-là la maison vide.
Je me souviens, dans le taxi, j'appelle ma mère pour lui dire que je suis descendu de l'avion et que je suis dans le taxi pour faire la route. Je tombe systématiquement sur le répondeur. Donc je fais un peu le tour des fenêtres qui sont habituellement ouvertes pour essayer de rentrer dans le chalet. Je vois d'ailleurs que le 4x4 n'est pas encore revenu, qu'il n'y a personne qui est garé là. Je me rends compte que toutes les portes sont fermées, qu'il n'y en a pas une ouverte. Donc je retourne voir le taxi qui décide d'attendre avec moi qu'ils arrivent.
Voilà, et ça dure de longues heures. C'est un extrait du premier épisode de votre série, Aurore Aubin. Est-ce que ça a été difficile de convaincre Mario Leblanc de témoigner dans votre documentaire ?
Alors ça a pris du temps, vous imaginez, et ça c'est un travail qui a été fait en collaboration avec une collègue qui s'appelle Émilie Blacher, qui m'a beaucoup aidée pour cette partie-là, et je pense que j'aurais pas forcément fait cette série documentaire sans l'aval de Mario. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était une nécessité de l'avoir à mes côtés, et que sans lui, pour le coup, je voyais moins l'intérêt de revenir sur cette histoire. Donc il fait preuve d'un tel courage. C'est tellement une figure, enfin, j'ai trouvé en lui un combattant. Et j'ai trouvé que son parcours avait tellement été, et sa personnalité était tellement forte que je ne pouvais pas faire sans lui. Donc oui, ça a pris du temps, mais une fois qu'il a dit oui, il a été au rendez-vous, et plus qu'au rendez-vous, j'ai trouvé une force incroyable, trouver les mots justes. Même si vous avez vu à la fin, je dévoile un petit peu, mais il n'est pas dans le pardon. Donc ça, c'est une vraie question
qu'on
peut se poser.
Tout a été difficile, évidemment, pour lui dans cette histoire. Il a perdu sa famille, sauvagement assassinée. Les premières semaines aussi ont été dures pour lui, parce que vous le rappeliez, au départ, c'est une disparition. Et il y a beaucoup de rumeurs, de calomnies dans le village. Xavier Flactif et sa famille n'ont pas bonne presse à ce moment-là.
Exactement, ils sont jetés en pâture. Alors, il s'agit pas de dire que, ça n'a jamais été vu dans les annales judiciaires, enfin, qu'une famille comme ça, une fois qu'on sait qu'elle a été sauvagement assassinée, que les rumeurs continuent à la calomnier. Et ça, c'est vrai que c'est. Alors, oui, la personnalité de Xavier Flactif était trouble. On peut parler de malhonnêteté, mais évidemment, rien ne justifie de tels actes criminels. À l'encontre de sa famille. Donc ça, c'est vraiment un côté effectivement hors norme dans cette histoire, parce que le village s'est jeté sur lui et sa famille. Alors il y a eu sur un fond de racisme, il faut pas le nier. Il y a aussi, comme le rappelle très bien le juge, qui dit que quand on n'est pas savoyard de souche, on n'est pas intégré. Et c'est évidemment pas le cas de la famille Flactif, qui n'était pas de Haute-Savoie mais du Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà,
et le fond poids de racisme, du village pèse dans l'enquête, Aurore Aubin.
Exactement. C'est assez hallucinant, ça aussi. C'est-à-dire que le village s'empare, tout comme les médias et les enquêteurs de l'affaire, et vont jusqu'à, effectivement, donner des fausses pistes aux enquêteurs, et qui leur donnent beaucoup de travail pour un résultat, évidemment, nul.
Tout ça dure des semaines, on ne retrouve pas la famille, on perd du temps, et puis... Puis il y a cette séquence de télévision. Un reportage de 7 à 8, interview des habitants du village et de ce voisin.
Malin, rusé, un renard, quoi. Futé, un renard, comme un renard.
Bon, moi, c'est soit que c'est lui qui est parti, ou alors c'est vraiment des gens qui l'ont... Et puis que... Je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Ça s'est pas mal passé, quoi. Bon, s'ils ont trouvé du sang ou quoi, est-ce que c'est volontaire ou c'est pas volontaire, ça on peut pas le savoir.
Aurore Aubin, à quel moment les enquêteurs vont-ils commencer à soupçonner cet homme, David Otia, qui n'a visiblement pas de gêne à parler devant les caméras ?
Alors ça, c'est à la fois c'est troublant, évidemment. On l'a déjà vu, hein. J'en parle d'ailleurs de l'affaire Patrick Henry, où Patrick Henry souhaitait la peine de mort pour celui qui avait tué une famille, et en fait c'était lui.
Donc, parce que là, c'est le coupable qu'on vient d'entendre.
Exact, oui, on vient d'entendre le coupable, David Othiard. En fait, les enquêteurs commencent à avoir des doutes au moment où ils écoutent les enregistrements, enfin ils mettent sur écoute David Othiard et ses proches, et ça, c'est, on est autour de mi-mai, et là ils commencent à avoir des doutes parce qu'on comprend que, enfin ils comprennent, pardon, qu'ils parlent de l'affaire sans la nommer, et que les relations entre David Othiard et sa compagne commencent à se tendre parce qu'il y a un mensonge. On dit des voilà, et donc la compagne de David Othiard commence à mal le vivre, et elle part, elle veut le quitter, elle commence à avoir un amant, enfin voilà, on sent qu'il y a beaucoup de non-dits et de mensonges. Là, les enquêteurs se disent oulala, il est déjà apparu dans cette affaire, on l'a déjà perquisitionné, mais on savait pas quoi chercher, donc on ne trouve rien. Et à partir de mi-mai, l'étau se resserre, sauf que ça ne correspond évidemment pas au temps médiatique. C'est-à-dire que pour ne pas qu'il parte ou qu'il parte, enfin qu'il fuit, il garde tout ça évidemment secret. Très peu de gens sont au courant, même chez les enquêteurs,
dans la famille,
à la gendarmerie.
Ouais.
Voilà, la famille n'est pas au courant. Donc ce qui la frustre terriblement, parce qu'elle a l'impression que l'affaire n'avance pas. Or, les enquêteurs sont en train, en fait, d'accumuler les preuves à l'encontre de David Othiard, et de ses co-accusés à ce moment-là.
Et ouais, pendant ce temps-là, au même moment, le couple s'affiche donc, répond aux questions des journalistes qui viennent les interroger, et ils sont nombreux à ce moment-là.
Vous parlez de qui? Des journalistes à vouloir les interroger?
Oui, ils sont plusieurs journalistes à venir les interroger. David Othiard et sa compagne n'ont aucune gêne à répondre aux questions, à dire tout le mal qu'ils pensent de la famille Flactif, y compris quand on sait qu'elle a été tuée, d'ailleurs, qu'elle n'est plus disparue et qu'elle a été tuée.
Exactement. Il y a effectivement TF1, les équipes de 7 à 8, mais il y a aussi Valérie Cormon de La Voix du Nord que j'interviewe dans dans ma série documentaire, et qui va être frappée. Et même, on est à la limite de la culpabilité, hein, où on sent qu'elle aurait bien aimé voir quelques signes. Mais comme elle dit, elle n'est pas flic, elle était une simple journaliste, parce que effectivement, il disait pique-pente de la famille Flactif, et avec un naturel déconcertant. Sans que ça pose de problème à sa compagne, d'ailleurs, qui elle-même, en fait, est pire que lui. Moi, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'elle renchérit, elle surenchérit en permanence sur les insultes. Elle raconte des anecdotes terribles sur son passé de femme de ménage chez les Flactifs. Voilà, il y a une espèce de haine affichée, et ça, c'est déconcertant quand on va apprendre après, évidemment, que ce sont eux les coupables. Et cette image va être terrible au procès, d'ailleurs. Donc ça sera dans l'épisode 4 que vous pourrez voir ce soir.
Le moment de bascule du procès.
Le moment de bascule du
procès.
C'est
finalement l'ADN qui parle, Aurore Aubin, qui est retrouvée dans la maison, l'ADN de David Othiard. Ce chalet, c'est la pièce à conviction numéro 1, la scène de crime, le théâtre de la violence inouïe. Vous vous êtes beaucoup attaché à ce décor dans votre documentaire.
Exactement. Donc c'est le sixième ADN qui a été mélangé à celui de Xavier Flactif, parce qu'on a retrouvé d'autres ADN inconnus, mais là, la preuve par le sang, c'était que effectivement l'ADN de David Othiard a été mélangé à celui de Xavier Flactif, ce qui a pu le confondre. Et cette scène de crime a tellement parlé, a tellement raconté l'horreur, qu'effectivement c'est un décor de ce chalet dans la montagne qui m'a beaucoup inspirée, et dont je me suis évidemment servie pour l'écriture des épisodes, parce que c'est la pièce maîtresse de cette histoire, avant qu'effectivement ils transportent les corps et n'aillent les brûler en forêt.
Il y a encore un mystère autour du passage à l'acte, Aurore Aubin. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme ordinaire, le voisin qui assassine de sang-froid toute une famille. Il y avait lui, et puis il y avait le projet qui a été élaboré avec sa compagne, avec un couple d'amis également pendant des semaines avant, mais le passage à l'acte, il reste mystérieux.
Oui et non, c'est-à-dire que le psychiatre de l'affaire et qui a expertisé David Othiard dit qu'effectivement c'est un projet fou, mais commis par des gens qui ne le sont pas. On n'a décelé aucune pathologie chez David Otia, ni sa compagne et chez le couple Arenza. Donc c'est tout d'un coup... Alors, on va parler plutôt de David Otia, parce que les autres, on va dire que ce sont des suiveurs, même si le rôle d'Alexandra reste flou.
On dit que
c'est pas un col... son ex-compagne, c'est pas un cold case, mais il reste des zones d'ombre, notamment le rôle d'Alexandra. Mais bref, sur la personnalité de, sur le passage à l'acte de David Otia, il n'y a pas de zone d'ombre, c'est juste quelqu'un qui a eu une haine, qui a viré à l'obsession. Et qui, effectivement, est passé à l'acte. Il y avait des prémices de violence dans son enfance, dans son parcours d'adolescent également, dans les débuts de sa vie professionnelle. Après, rien ne présageait quand même, effectivement, qu'il tue toute une famille. Mais donc, effectivement, c'est un homme ordinaire, avec quand même une violence en lui, qui était là, et qui passe à l'acte par jalousie, d'où le sous-titre de ma série, une jalousie meurtrière. Mmh. Et c'est possible, oui, quand on n'est pas fou, de passer à l'acte par jalousie. Quand une jalousie vous dépasse, qu'elle arrive à des frustrations énormes et que finalement, en fait, tout ce qu'est l'autre, c'est ce qu'on rêve d'être, mais qu'on n'a pas les moyens, mais dont on n'a pas les moyens d'assouvir, d'être l'autre, en fait, qui nous fait tant rêver. Parce que c'est ça, la famille Flactif faisait rêver la famille Otia. Elle avait tout ce que l'autre, enfin, ce qu'eux-mêmes n'avaient pas.
Aurore Robin, le procès.
Dans un espèce d'effet miroir.
Le procès s'ouvre le 12 juin 2006, Aurore Robin. Pour 3 semaines. Vous y consacrez un épisode entier, vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est assez rare dans ce genre de série documentaire de s'attacher, de s'arrêter sur ce procès. Qu'est-ce que vous vouliez montrer ?
Alors déjà, je voulais faire un petit pas de côté, je l'ai déjà dit, mais par rapport au true crime traditionnel, j'avais envie, parce que moi j'adore les faits divers déjà, et en tant que quelqu'un qui aime les faits divers, j'avais envie qu'on y consacre un épisode entier, parce qu'un procès, c'est tellement intense. C'est-à-dire que 3 semaines, vous imaginez, où on voit les parties civiles, donc la famille des victimes, et notamment Mario, évidemment, qui a 16-17 ans à l'époque, qui va être confronté au meurtrier. Donc j'avais vraiment envie qu'on s'attache au moment fort de ce procès, aux confrontations de Mario avec son meurtrier, à cette présence aussi du public qui est très lourde, qui vient voir le monstre. Alors après vient la question de savoir est-ce que ce
dans
sont des monstres qu'on a en
face
dans le banc de Jacques Villon.
D'ailleurs, le décor a été
Voilà. Dans un décor qui est complètement dingue, c'est-à-dire c'est une salle des fêtes transformée en procès, enfin en tribunal, pardon. Donc on est en pleine Coupe du Monde, il fait une chaleur atroce, on a des sièges en plastique, et ça, tous les acteurs du procès vont évidemment critiquer ce côté désacralisé de cette salle des fêtes, et Mario le premier d'ailleurs va le regretter, parce que tout d'un coup le côté sacré du procès là, on n'y est pas. On est vraiment dans une salle une salle des fêtes reconvertie en tribunal, mais ce qui va quand même donner lieu à des grands moments, la confrontation de Mario avec David Otia qui va le regarder droit dans les yeux et qui va le supplier de dire la vérité, évidemment ça ne marchera pas.
La diffusion des interviews à la télévision qui seront aussi un moment de bascule de ce procès. Merci beaucoup Aurore Robin d'avoir retracé cette affaire avec nous dans cette série documentaire. David Otia a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour ce crime avec 22 ans de sûreté. Il pourra solliciter une libération conditionnelle à partir de l'année prochaine. L'affaire Flactif, une jalousie meurtrière. 4 épisodes donc, diffusés ce soir sur Planète Plus Crime, à voir sur la plateforme MyCanal. Je vous renvoie aussi à l'épisode d'Affaires Sensibles que France Inter avait consacré à l'affaire, à réécouter sur notre site. Merci beaucoup Aurore Robin. Notre feuilleton, une semaine dans leur vie à suivre, c'est le dernier épisode aussi tout de suite. Et nous repartons donc dans le Grand Est. Dernier jour au parc d'attractions Nigloland. Dernier tour dans ces manèges. 700 000 visiteurs chaque année. Ils rivalisent avec les plus grands. Alors, on n'a pas encore croisé les mascottes Hérisson, Nigo et Niglo et Niglotte. Mais Ajra Mohamad termine ce reportage dans un lieu symbolique avec les deux frères, les deux fondateurs du parc.
Je suis Patrice Gélis. Et nous sommes, avec mon frère et moi, les deux fondateurs et créateurs du parc.
Et là, on est installé dans un endroit un peu particulier.
Oui, un endroit mythique, c'est la caravane de mon grand-oncle, du frère de mon grand-père. Nous sommes une famille très ancienne de forains et je suis issu en ligne directe de la plus ancienne famille de cirque de France.
Et pourquoi avec votre frère, vous avez dit un jour, on va rester pour de bon ici et on va créer un parc d'attractions?
Mon père avait eu cette idée-là en 1971. On était à la foire à l'époque, en fait, avec notre manège à Thionville. Et on était allé pour un anniversaire de mon grand-père Gélis, au Luxembourg. On était parti se promener au parc de Bettembourg. C'est un parc animalier avec quelques attractions. Et mon père avait flashé, il a dit là on pourrait faire le parc merveilleux. On avait 16, 17 ans, 18 ans avec mon frère, on était gamins. Et puis on a repris l'idée suite à un voyage aux États-Unis en 83. On est allé aux États-Unis et là on a dit l'idée de notre père, il faut peut-être la reprendre parce qu'elle est vraiment bonne. Et puis voilà, on a décidé rapidement de faire le parc puisqu'on l'a ouvert en 87.
Avant Disneyland Paris?
Oui, avant Disneyland Paris. Mais nous exploitions dans la famille des spectacles et des manèges que il n'était même pas en culotte courte Walt Disney. Hein. On ne pensait jamais acquérir une telle notoriété et puis avoir un parc aussi important il y a 30 ans. Et voilà, c'est le client qui décide, tant qu'il vient, faut le satisfaire.
Le nom de ce parc, Nigloland.
Niglo, c'est un petit hérisson, c'est un animal un peu fétiche, parce que les gens du voyage ou les forains, bon, c'était une proie facile à capturer, très difficile culinairement à préparer. Le Niglo, c'est un animal un peu symbole, qui a un côté très sympathique et qui n'est pas beaucoup utilisé. Donc en plus, on aura l'exclusivité de l'exploitation du hérisson. Et
regarde. Voilà, pourquoi, regarde.
C'est un cadeau pour le bébé?
Eh ben oui. Ah, qu'il est mignon. C'est un plaisir.
Thank you.
Oh, bisous. Oh. Oh, yes. J'ai une photo avec le bébé. Là.
Vous vous appelez comment?
Sean. You're from Wales. We do come here every year. You have done an amazing place. It's fantastic. It's very good.
Thank you for your visit.
Yeah.
Vous auriez pu construire d'autres Nigloland ailleurs en France?
Non, parce que moi je considère que l'exploitation, comme on l'a fait nous, avec l'amour qu'on donne à ce qu'on fait, à notre métier, le bien-être qu'on essaie de donner à nos clients, c'est comme la restauration de trop niveau. Il faut que le chef soit là dans les cuisines. Oui, parce que nous on est prêt à se mettre en jeu, à y laisser notre chemise, à y laisser notre santé et tout, parce qu'on vit de ça depuis plus de 200 ans. Donc c'est pas une affaire de finance, là. C'est une affaire de sentiment. Et puis je pense qu'on est bien préservé pour l'avenir, parce que ce qui me rassure, c'est qu'on ne peut pas virtuellement faire ressentir à un client aujourd'hui, avec toute la technologie, des écrans 3D, en fait, toute la technologie, le loisir qu'on offre, il ne peut pas être recréé. La fête foraine ou les manèges, c'est une odeur, ça sent la barbe à papa, ça sent les bonbons, il y a une ambiance très particulière. Nous, on est intouchables, on ne peut pas remplacer ce qu'on offre au public. On est préservé des technologies modernes et des grands qui veulent tout manger. Ben, nous, ils ne mangeront pas. Surtout qu'à hérisson, ça pique.
Une semaine dans leur vie à Nigloland. Reportage signé Ajra Mohamad, réalisé cette semaine par Stéphane Roncin.
France Inter, le 13-14.
Et du Grand Est, je vous emmène en Guyane. C'est la France et le sport le vendredi à 13h50 avec le journal L'Équipe. Et vous, Jean-Baptiste René, nous sommes donc en Guyane, sur la terre natale de la meilleure sprinteuse française.
C'est ça, et nous allons plus précisément à Rémire-Montjoly, commune du littoral située dans l'agglomération de Cayenne. C'est là, à quelques kilomètres de la plage, sur la piste bleue du stade municipal, que Jemima Joseph, l'enfant du pays, vient d'empocher sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris. Elle avait fait la promotion de cette compétition locale parce qu'elle ne voulait pas rater l'occasion de courir devant son public, et la sprinteuse ne s'est pas ratée. 11 secondes 04 sur 100 mètres, 22 secondes 57 sur 200 mètres. Jemima Joseph a réalisé les minima, c'est-à-dire le chrono exigé par la fédération, sur les deux distances en battant à chaque fois son record personnel. Alors sur 100 mètres, qui reste la distance reine de l'athlétisme, elle a même signé la meilleure performance de la saison européenne. Mais au niveau mondial, donc aux Jeux Olympiques, ce genre de chrono ne suffira pas à titiller les cadors du sprint, hein, traditionnellement dominé par les États-Unis et la Jamaïque. Mais à 22 ans, Jemima Joseph confirme qu'elle est plus qu'une promesse et les blessures qui ont ralenti sa carrière semblent derrière elle. La jeune femme continue aussi de porter haut les couleurs de la Guyane qui reste son camp de base, alors que la plupart des athlètes d'outre-mer font en général le choix de rejoindre la métropole.
Et pourquoi fait-elle exception à la règle ?
Eh bien, Jemima Joseph l'a dit elle-même, elle a tout sur place. Un stade d'abord, celui-là même où elle vient de réaliser ses deux excellents chronos. La plage ensuite. Et ce n'était pas un détail pendant le confinement, car elle a pu continuer à s'entraîner sur le sable. Et enfin, un entraîneur, ou plutôt une entraîneur au destin singulier. Katia Bent, un nom familier des connaisseurs de l'athlétisme, puisqu'elle a fait partie du relais 4x100 mètres champion d'Europe et vice-champion du monde à la fin des années 90. Elle aussi originaire de Guyane, Katia Bent a naturellement pris sous son aile Jemima Joseph. Elle a fait découvrir à une athlète un peu dilettante la rigueur des entraînements. Elle lui a montré le chemin du haut niveau. Les deux femmes se sont apprivoisées, appréciées. Jusqu'à cette annonce brutale à l'été 2019, Katia Bent devait se faire amputer de la jambe gauche sous le genou en raison d'un problème sanguin.
Est-ce que le bel élan du duo a été brisé ?
Bien, il y a eu un choc, évidemment, des larmes, surtout celles de la sprinteuse d'ailleurs. Mais quelques jours après son opération, qui a eu lieu en métropole, Katia Bent écrivait déjà les plans d'entraînement sur un cahier et elle envoyait les photos à son athlète resté en Guyane. L'entraîneur a donc vite remonté la pente, aidé notamment à l'époque par l'élan de solidarité suscité par son histoire. Ses copines du relais, et puis même d'autres athlètes comme Marie-Josée Pérec, avaient créé une cagnotte pour financer sa prothèse et les visites de sa famille pendant sa rééducation. Ensemble, les deux femmes ont repris ensuite le chemin des pistes et Jemima Joseph a participé à ses premiers Jeux Olympiques en 2021 à Tokyo, alors qu'elle n'avait que 19 ans. L'épisode a en tout cas renforcé les liens du duo, à en croire la sprinteuse qui dit ainsi « Je me dois d'être à la hauteur de son courage. Elle n'est pas juste une entraîneur, elle est une autre partie de moi. »
Et c'est une vraie histoire de courage. Merci beaucoup Jean-Baptiste René du journal L'Équipe. On termine ce 13-14 en musique comme chaque jour. C'est une chanson avec Frédéric Pommier qui cette semaine nous a remixé le meilleur de ses dernières rencontres. Aujourd'hui, on réécoute le choix de la comédienne Alison Paradis. Elle voulait écouter « Chaloupé » de Gaël Faye.
Moi, c'est marrant parce que j'avais entendu des chansons de Gaël Faye de son précédent album sans pouvoir l'identifier. Et un jour, je suis montée dans un taxi et je suis tombée sur Lundi méchant. Et je me suis pris une claque. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà entendu des chansons de lui qui m'avaient touchée. Et donc là, je m'y suis un peu plus intéressée.
Et là, vous avez découvert cet album ?
J'ai découvert cet album que j'ai adoré. Et du coup, quand j'ai écouté tout l'album, je suis tombée sur Chaloupé. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je pense que je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté. Parce que mon fils aîné, il connaît les paroles par cœur, il l'adore. Quand je la mets, il danse, c'est quelque chose qui fait partie de nous, quoi.
Il a quel âge ?
Il a 7 ans et demi. Et ce qui nous a fait le plus rire il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai dû l'écouter beaucoup enceinte. Et quand on la met, ça fait bouger mon bébé maintenant. Donc on se dit que c'est vraiment marrant, cette chanson. Elle nous fait tous bouger, quoi.
Un jour viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages. Ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps, sous des soleils endimanchés. Un jour viendra, on fera vieux os, des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon, malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée. Personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive. On scratchera du gramophone, quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor en deux petits pas.
Elle me met en éveil en fait. Enfin, y a quelque chose comme ça où j'ai l'impression que du coup mon corps se réveille. Et c'est excessivement bien écrit, et bien interprété, et bien mis en musique.
Cette chanson, elle parle de l'âge également.
Ouais.
Et de nos corps qui au bout d'un moment s'abîment un peu.
Exactement, mais que ça ne nous empêchera pas de chalouper. C'est ça.
On s'épuisera sur le dance floor en deux petits pas économes.
Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation. Hein. Mais peut-être parce que je vois toujours le côté joyeux des choses. J'aime bien le mot, moi, chalouper. je trouve chouette.
C'est pas exactement danser, chaloupe.
Non, c'est ça, c'est plus voguer, quoi, presque, un peu comme un bateau.
Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle, de continuer à chalouper. Chalouper, chalouper.
Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle, de continuer à chalouper.
Chalouper, chalouper.
Elle vous fait penser à quelqu'un en particulier, cette chanson ?
Bah, c'est étonnant parce que là, en lisant, ouais, elle peut me faire penser à mon papa. C'est marrant. Qui n'est plus et qui, je pense, aimerait qu'on s'en souvienne en continuant à chalouper.
Et chalouper ?
Beaucoup. Je pense qu'on n'a jamais autant dit le mot chalouper que durant ce moment ensemble.
Et chalouper avec ses filles ?
Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours été fascinée par regarder mon père danser. Mon père et ma mère qui dansent, ça a été le spectacle de mon enfance.
Finalement, c'est peut-être pour ça que vous avez choisi cette chanson.
Finalement, c'est peut-être complètement pour ça que j'ai choisi cette chanson. C'est marrant, en fait, c'est un peu une thérapie de venir parler d'une chanson qu'on a choisie. Gaëlle Faye, chalouper, le choix d'Alison Paradis avec Frédéric Pommier. Alison Paradis à l'affiche de la pièce d'un tramway nommé Désir au Théâtre des Bouffes Parisiens. Le 13-14 de cette semaine a été préparé par Corinne Audouin, Antoine Quevilly et Stéphane Leneuf à la rédaction en chef, accompagné de Stéphanie Valois, assisté par Swat Bellani, Sylvain Lesage, Rachid Zourdani, Nicolas Sabat et Fabien Etchecopar. Merci également à nos techniciens Paola Collin, Marie Potier et Ronan Maé. Merci bien sûr à tous nos standardistes. Jérôme Cadet revient aux manettes lundi prochain.